Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à l'adolescence des enfants adoptés qui peut être compliquée en écoutant Ellie. Et puis ensuite, c'est Olivia Farkas, psychologue et psychanalyste, qui répondra aux questions sur le sujet. On sait que l'adolescence est une tempête émotionnelle, là je vous apprends rien du tout, mais elle peut être encore plus compliquée à vivre quand on est une enfant ou un enfant adopté. Bonjour Ellie.
Bonjour.
Merci d'être sur ce plateau, merci de votre confiance pour venir nous raconter votre histoire. Vous avez eu une petite enfance très heureuse, Ellie, et puis ensuite vous avez vécu une adolescence tumultueuse, et c'était surtout lié à vos origines, les origines qui étaient inconnues. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours de vos parents pour arriver jusqu'à vous et jusqu'à votre frère, puisqu'ils ont donc adopté deux enfants?
C'est ça. Du coup, moi, mes parents ont décidé de faire un parcours d'adoption parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, de façon assez similaire à beaucoup d'autres. Ma mère biologique, j'ai été adoptée avec mon frère qui a un an de plus que moi. Elle souhaitait qu'on soit adoptés en fratrie, qu'on ne soit pas séparés.
Voilà, c'est-à-dire que c'est votre frère biologique.
Oui, c'est mon frère biologique. D'accord. On a la même maman. Mmh. Du coup, elle souhaitait que l'adoption se fasse en fratrie. Donc, moi, mes parents ont fait un agrément. Enfin, mes parents adoptifs ont fait un agrément pour un enfant. Et du coup, ils ont réussi à avoir l'agrément pour deux enfants. Ils ont vu beaucoup de psy. Ils ont eu un parcours assez long, un parcours
d'adoption.
Bien sûr,
c'est toujours très long.
Ouais. C'est ça. Et petite anecdote, c'est vrai qu'au moment d'un rendez-vous psy, le psy demande à mes parents à quel point ils sont motivés pour avoir un enfant. Sauf qu'à l'époque, il y a beaucoup de vols d'enfants au Guatemala et beaucoup d'achats d'enfants. Ah oui. Du coup, mon père ayant vu ça, il a dit qu'il ne voulait pas un enfant à n'importe quel prix. Sous-entendu qu'il ne voulait pas acheter d'enfant, il voulait un enfant de la bonne façon, de façon belle. Et du coup, le psy n'a pas compris. Il pensait que mon père n'était pas motivé, alors que ce n'était pas le cas. Du coup, ça a retardé le dossier.
Oui, donc ça a pris beaucoup de temps. Enfin, ils ont fini quand même à venir vous chercher.
Exactement.
À l'orphelinat avec votre frère.
C'est ça.
Vous êtes repartis tous les quatre en France. Comment ça s'est passé, votre petite enfance?
Ça s'est très bien passé. On arrive dans une ville, mais il y a plein de campagnes autour. Vraiment, on s'y sent déjà chez nous. Mes parents, en fait, ils ont filmé tout le parcours de l'adoption, donc de l'arrivée au Guatemala jusqu'au mois suivant notre arrivée en France. Donc, on a les vidéos. On a tout. Et on nous voit rencontrer notre famille, c'est vraiment très agréable. Moi, je ressens qu'on est aimé, qu'on est entouré d'amour, qu'on est gâté, qu'on était attendu, pas seulement par mes parents, mais vraiment par tout le cercle familial. On sent vraiment qu'on était désiré. Avec tout le monde, ça se passe très bien. On sent vraiment... c'est comme si, en fait, avec mon frère, on faisait une famille d'un côté, une partie de famille d'un côté au Guatemala, et que nos parents en France faisaient l'autre partie de famille, et qu'il fallait qu'on soit réunis.
Et c'était, ça y est, quoi, tout à coup...
Ouais, c'était logique. Il fallait qu'on soit enfin réunis. C'était comme si c'était un peu la destinée. Il fallait qu'on soit ensemble, et c'était totalement naturel pour nous.
Voilà, donc vous n'avez jamais ignoré que vous aviez été adoptée. Et l'année de vos 10 ans, vos parents ont se séparé. Qu'est-ce que ça va changer, cette séparation ?
Ça va changer beaucoup de choses parce que du coup, ça va apporter un climat très tendu. Très, très tendu. Ça va être assez paradoxal parce que du coup, moi, je le vis mal. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de disputes entre mes parents. Et à côté de ça, j'ai tellement envie que ça s'arrête et d'enfin retrouver un milieu plus apaisé que je vais avoir hâte et être contente de cette séparation. Ma mère, elle va avoir la garde parce que mon père est beaucoup en déplacement par rapport à son travail. Donc, je vais voir mon père un week-end sur deux. Le problème, c'est qu'un week-end sur deux, ça ne se passe pas bien du tout. Il y a beaucoup d'éclats de colère, beaucoup de disputes, et ça m'affecte beaucoup. Mon père va beaucoup trop pour moi à l'époque s'intéresser à mon frère et me délaisser. Donc je vais commencer à ressentir une sorte d'abandon de mon père en fait.
Donc vous commencez à vous sentir mal.
Exactement.
Et surtout quand vous allez chez votre papa, vous sentez rejeté. Exactement. L'adolescence arrive, c'est-à-dire que vous avez 12 ans, et là ça commence à se compliquer encore un petit peu plus.
Oui, parce qu'il y a un moment clé où je comprends que l'adoption, c'est un abandon. Et quand ce moment arrive, tout s'effondre un peu autour de moi. Et j'ai vraiment l'impression, ça va presque me tuer au premier degré. Hein, vraiment, j'ai l'impression que jamais je survivrai à cette nouvelle. Plus à côté de ça, les liens avec mon père qui se distendent de plus en plus, qui sont de plus en plus conflictuels, je vais ne plus le voir pendant plusieurs années. Donc pour moi, c'est un deuxième abandon. Je me dis, en 12 ans, ça fait quand même deux abandons, ça fait beaucoup. Pourquoi je suis là? Et est-ce que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue pour avoir été abandonnée deux fois?
En revanche, avec votre maman, ça se passe bien. Hein.
Oui, ça se passe très, très bien avec ma maman. On est très fusionnels. On va faire un peu deux couples, en fait, au final. Il y aura mon père et mon frère d'un côté et moi et ma mère d'un côté.
C'est ça. Alors, comment est-ce que ça se concrétise, ce mal-être ? Parce qu'on comprend très bien que là, vous avez soudain, vous vous dites, ah, vous comprenez la notion d'abandon, qui est d'une violence absolue.
Oui.
Vous avez l'impression d'être abandonné en plus une deuxième fois par votre père. Mais qu'est-ce que ça donne dans votre quotidien d'adolescence ?
Alors, ça va être extrêmement violent. Alors, au début, ça va être vraiment de la violence verbale. Je suis une tempête vraiment d'émotions perpétuelles. Tout est sujet à m'énerver, tout est sujet à me rendre triste, à me briser le cœur, hein, vraiment. Et je vais vraiment tout laisser sortir, toute la colère qu'il y a en moi, par cette incompréhension d'abandon, je vais la laisser sortir. Ma chambre, c'est un bordel monstre, j'arrive à rien ordonner parce que dans ma tête, c'est beaucoup trop désordonné. Je casse tout, je détruis tout, vraiment. À l'école, je suis assez solitaire de base. J'ai quelques amis, relations amicales, mais je vais toutes les détruire. En fait, je détruis toujours, dès que les gens s'attachent à moi, je vais le détruire parce que c'est quelque chose qui me paraît compliqué. Et en fait, je vais vraiment rester... je suis collée à ma mère tout le temps, ça me rassure, en fait.
Oui, c'est ça. Puis après, vous allez devenir un peu plus femme, forcément, vers vos 13-14 ans. Comment ça va évoluer, alors, cette situation ?
Alors, du coup, étant en manque d'un papa, je vais commencer à évoluer. Mon corps change avec un peu de maquillage et un corps de femme. Les garçons vont s'intéresser à moi. Je vais clairement rentrer dans la brèche et les laisser s'intéresser à moi. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de conquêtes. Ça me fait du bien parce que ça me donne vraiment l'impression que je peux être quelqu'un d'autre. Depuis être cette fille qui a été abandonnée, depuis être cette fille qui est brisée, parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment brisée. Je suis quelqu'un d'autre, ça me fait du bien. Ils m'écoutent parce que je suis assez mature pour mon âge et ça me permet de souffler un petit peu, de me dire que je peux être quelqu'un d'autre pendant un temps. Et ça me soulage beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez besoin de sortir de votre réalité,
c'est
si j'ai
ça.
Bien compris. Alors, votre maman, dans tout ça, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à tous ces comportements ?
Alors, pour les garçons, elle va être au courant que beaucoup, beaucoup plus tard, quand j'aurai l'âge adulte. Pour ce qui est du reste, elle a été très forte pour nous deux. Et je pense qu'elle avait compris qu'il fallait que je passe par cette tempête d'émotions pour pouvoir devenir une adulte assez sereine. Mais ça va être difficile pour elle de voir sa fille se détruire à ce point.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en dehors de cette prise de conscience de l'abandon, vous aviez aussi des flashs qui vous venaient dans la tête.
C'est ça.
Je faisais des traumatismes qui revenaient dans votre tête.
Je faisais beaucoup de cauchemars, de scènes de guerre, encore à l'heure actuelle, mais ça a toujours été le cas. Je suis incapable de regarder un film de guerre ou quelque chose qui a notion à la guerre. C'est pour moi insupportable. J'ai l'impression de le vivre avec eux. Je dors très mal. Enfin, vraiment, tout était fait pour que je me sente mal. Et je ne sais pas encore pourquoi à ce moment-là.
Voilà, et tout ça va vous mener à une tentative de suicide.
Exactement.
Quel âge vous aviez à ce moment-là ?
Je devais avoir 15-16 ans. Très jeune, donc je fais une tentative de suicide. Donc je vois déjà un psy depuis quelques temps, parce que j'ai été diagnostiquée vers 12 ans d'une dépression profonde. J'ai pris des antidépresseurs qui ne m'ont pas franchement aidée, surtout que j'ai continué à faire ce que je faisais, donc à m'automutiler, parce que je m'automutilais, je me faisais beaucoup de mal physiquement. Je continue à voir des garçons, je commence à culpabiliser parce que j'ai l'impression de devenir un monstre. Donc il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Et quand c'est trop, je prends des médicaments et je décide de partir en espérant de ne pas me réveiller. Ma mère me réveille, elle voit que c'est très difficile, elle comprend tout de suite, elle appelle les pompiers et voilà.
Alors vous allez être hospitalisée brièvement après cette tentative de suicide, déscolarisée aussi pendant un an.
C'est ça.
Comment est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire, Élie, après tout ça ?
Alors, ça me fait beaucoup de bien, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, d'être toute seule, d'apprendre à être avec moi-même, parce que c'était vraiment le problème. J'arrivais pas à être toute seule sans ma mère. Ça m'a permis d'apprendre à être indépendante émotionnellement. Ça me permettait de me sentir dans ma bulle et en sécurité. C'était vraiment le problème le plus gros que j'avais, c'est que je me sentais jamais en sécurité. Je vais aussi, du coup, apprendre à faire des activités qui me font du bien, qui me plaisent, et qui me permettent de souffler sur mon mal-être psychologique. Donc, je vais commencer la guitare, je vais reprendre la danse. Et surtout, je vais commencer le maquillage artistique. Et ça, ça a été vraiment incroyable.
Et ça se voit sur vous, c'est magnifique d'ailleurs. Et puis, il y a aussi un événement qui va changer votre vie.
Ouais.
C'est que vous avez perdu un ami.
C'est ça. Moi, j'avais 16-17 ans et lui, il avait 18 ans. Et j'ai appris son décès. Et c'est vrai que ça a été, je pense, la claque la plus douloureuse de ma vie. Mais elle était tellement importante parce que déjà, ça m'a permis de comprendre à quel point la vie était fragile. Puis je me suis dit
précieuse aussi.
C'est ça. Et je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça, ni à ma mère, ni à mon frère. qu'il fallait que je me mette un coup de pied aux fesses si je voulais m'en sortir, en fait.
Mmh. Alors aujourd'hui, vous êtes reconstruite, Ellie. Vous avez trouvé votre voie professionnelle, vous l'avez dit. Vous êtes en couple. Mais il y a un an, vous avez ressenti ce qu'on appelle un trigger. Alors moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que vos traumatismes se sont réactivés.
Oui.
Comment ça s'est manifesté ?
Alors souvent, du coup, c'est suite à des gros booms ou à quelque chose qui fait référence à la guerre, parce que je vais apprendre avec mes séances psy, mes séances psy, qu'en fait, je suis... quand ma mère était enceinte de moi, c'était encore la fin de la guerre civile au Guatemala, donc elle a dû voir des choses pas évidentes. Donc c'est une transmission transgénérationnelle. C'est pour ça que je ne peux regarder aucun film de guerre, mm-hmm. et c'est pour ça que dès que quelque chose est trop choquant pour moi, soit de façon auditive, soit de façon visuelle, ça va réactiver le traumatisme, donc mon cerveau va se mettre en alerte et je vais repartir dans mes travers très facilement.
De protection, mais qui sont en fait des choses qui ne vous protègent pas.
C'est
alors on va poser évidemment plein de questions à notre spécialiste sur cette notion dans quelques instants. Vous n'avez pas eu envie, Ellie, d'en savoir un tout petit peu plus sur vos origines ?
Alors, pas sur ma mère biologique. Par contre, il y a eu un moment où vraiment j'ai eu envie d'en apprendre beaucoup plus sur le Guatemala, sur ma culture, sur mes origines de là-bas. J'ai contacté des gens sur place, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et à côté de ça, il y a eu aussi ce sentiment de grand vide, du manque de pays. J'ai ressenti vraiment un manque de pays profond qui m'a plongée vraiment dans la tristesse. Et ça m'a fait du bien de pouvoir vraiment discuter avec des gens là-bas. Ça m'a permis d'en apprendre plus. J'en avais vraiment besoin.
Et nous accueillons la psy, suspensionnée, comme on dit. Olivia Farkas, bonjour. Merci
bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes donc psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez cofondé le DAPHA, c'est le dispositif d'accompagnement psychologique aux histoires adoptives. Donc ça, c'est un réseau de professionnels qui est sensibilisé donc à l'adoption et aux problématiques qui y sont liées, bien entendu. Alors, ce trigger, c'est quoi ? Parce que alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Dieu sait que j'aime la psychanalyse. Alors, mais ça, c'est une notion que je connaissais pas.
C'est justement pas un terme de psychanalyse.
C'est pour ça.
C'est un
alors.
Terme plus contemporain qui vient des États-Unis. Hein, c'est une détonation en anglais. Hein, trigger.
C'est ça.
Alors nous, on parle plutôt en psychanalyse d'après-coup, hein, si on se réfère à Freud, évidemment. Et donc, dans le traumatisme, c'est plutôt voilà, des éléments qui sont comme ça plus anciens, qui ont été mis à distance psychiquement et inconsciemment par des défenses psychiques pour pouvoir supporter sur le moment des traumatismes, des éléments, par exemple la guerre, par exemple l'abandon. Donc un refoulement, un déni, des choses parfois assez massives, hein, des défenses psychiques assez massives. Et à mesure de la vie, dans le quotidien, dans le contemporain, certains éléments font ressurgir dans une espèce de confusion comme ça. Mais donc, en effet, une détonation. Quoi. On peut reprendre ce mot-là au sens où, psychiquement, ça a fait effraction.
C'est ça,
et le réel réapparaît. Et parfois, souvent, on est dépourvu parce que ça ne fait pas référence à des éléments conscients, toujours.
D'accord. Voilà. Compris. Alors, pour revenir un petit peu aux enfants adoptés, qu'est-ce qui se joue à l'adolescence ? Parce qu'on entend, j'ai l'impression que c'est dans 100% des cas, je me trompe, il y a forcément des personnes pour qui ça se passe bien, mais on a vraiment l'impression que l'adolescence des enfants adoptés, c'est particulier. Qu'est-ce qui se joue pour eux spécifiquement à ce moment-là ?
Alors, l'adolescence, c'est un moment implique que le sujet se développe encore différemment, d'abord au sens somatique hein, du corps. Le corps change, l'individu devient plus vers
l'adulte. Ça, c'est déjà
mais ça,
assez bouleversant pour tout le monde.
Tout un chacun vit ça. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire aussi que le processus de l'abandon et de l'adoption peut avoir un effet un peu loupe sur d'autres éléments ou processus de la vie plus communs. Et donc, à l'adolescence, souvent, on a besoin de s'appuyer sur ce qui a pu se mettre en place dans la première enfance, dans les moments beaucoup plus précoces de la vie, notamment les premiers liens, la petite enfance, les liens aux parents à ce moment-là. Et sauf que là, évidemment, avec l'adoption, on oublie souvent de dire qu'en premier lieu, il y a eu un abandon.
Hein,
et que cet abandon premier, eh ben, c'est une rupture qui est une effraction qui est narcissiquement... qui a des conséquences très, très fortes.
Avec
évidemment.
Des problèmes d'identité aussi qui sont liés
alors,
à ça.
Alors, l'adolescence, c'est aussi ça, c'est construire son identité, donc à la fois personnelle, à la fois en appui sur son environnement par rapport aux parents. C'est aussi un moment où on désidéalise en principe les parents. Hein, il est nécessaire de les faire un peu descendre de leur piédestal. Là, encore dans l'adoption, ça se joue encore autrement parce qu'il y a à la fois ces parents d'adoption qui sont les parents, on les appelle les parents, on ne les qualifie pas à chaque fois, mais il y a évidemment les parents d'origine qui existent là encore inconsciemment avec parfois peu d'éléments et évidemment pris à nouveau dans cette question de l'abandon.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, on a reçu beaucoup de questions de parents concernés, dont celle de Sylvaine, qui vous dit « Maman d'une petite fille de 8 ans adoptée à l'international. Elle connaît ses origines, mais j'appréhende évidemment l'adolescence. Comment se préparer à d'éventuelles conduites à risque ?»
Alors, on voit que déjà, cette mère, elle imagine tout de suite les conduites à risque.
Oui. Hein.
Alors, dans la clinique, pour travailler beaucoup avec des situations d'adoption, évidemment que c'est une possibilité, les conduites à risque. Souvent, en fait, il y a un peu deux manières de réagir pour des adolescents, notamment, soit plutôt du côté très anxiogène, très anxieux, très interne, en fait, donc plutôt du côté déprimé. Donc ça, c'est des enfants qui font moins de bruit. Et puis, lorsqu'il y a une difficulté à élaborer, à mettre en mots, hein, lorsque ça ne passe pas par le langage, et ben là, ce sont plus souvent des conduites à risque. Donc, en effet, des consommations de drogue, des conduites à risque dans les relations aux autres, manquer les cours, se faire du mal. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu un continuum comme ça, avec évidemment des situations très variées selon les personnes. Donc oui, c'est plutôt être attentif à ça. Après, je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas toujours mettre ces interrogations-là du côté de l'adolescent. C'est-à-dire que l'adolescent, il vit dans une famille et ce qu'on appelle la grève de l'adoption, ça se joue aussi avec les parents, avec leur propre histoire, avec leur propre désir d'enfant. Qu'est-ce qui a fait ? Souvent, ce sont des parcours très longs hein, pour des couples ou des personnes qui adoptent seules, mais c'est des parcours assez longs pour arriver au moment de la rencontre, hein, de ce qu'on appelle l'apparentement avec l'enfant. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant adolescent dans l'ici et maintenant hein, de la situation. Et je pense qu'il faut pouvoir se remettre un petit peu. Et puis, qu'est-ce que signifie pour, évidemment, l'ado en premier lieu peut-être, mais les parents, socialement autour, la famille plus élargie, qu'est-ce que c'est que l'adoption ? Ça renvoie à énormément de fantasmes aussi. Hein.
Virginia vous demande comment expliquer que la colère de notre ado de 15 ans adopté tout bébé soit dirigée vers nous, ses parents adoptifs, et comment faire la part des choses, ne pas lui en vouloir.
Oui. Alors, c'est dirigé certainement vers ses parents parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui hein, et que peut-être que pouvoir un peu les attaquer, aller confronter leur solitude comme ça et leur sollicitude aussi dans leur place de parents, c'est une manière, alors peut-être là encore, on voit que ça ne passe peut-être pas par le langage, que ça passe par une opposition, par une confrontation. Parfois, c'est même physique. Là, je reçois un couple, leur adolescent s'attaque au père physiquement. Il y a des bagarres, il y a des... Bon, et c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière d'aller chercher, de s'assurer que ce père-là, cette mère-là, ne vont pas abandonner cette fois. Et qu'en effet, le parent de naissance ayant abandonné, est-ce qu'on peut faire confiance ?
C'est moins compliqué, entre guillemets, quand le parent de naissance est mort et qu'il n'y a pas eu d'abandon ? Quand les enfants sont adoptés à l'étranger,
là, c'est
par
vraiment
exemple.
La question de la narration. Ouais. Parce que je ne sais pas si on peut dire que c'est plus ou moins compliqué. C'est vraiment comment on peut... C'est la question de l'origine, en fait. Et l'origine, ce n'est pas seulement de cellules qui se rencontrent. C'est, là encore, l'histoire d'un homme, d'une femme, bon, classiquement, de là, dans la situation, en effet, qui a impliqué cet abandon. Oui, s'il y a mort, parfois, oui, ça peut faire dans la narration. Ça peut être...
Il n'y a pas cette notion d'abandon, en tout cas.
La notion d'abandon, elle existe même quand on n'a pas été abandonné.
Est-ce que ça s'anticipe ça ? Est-ce que si jamais on raconte, par exemple, l'histoire, si on dit, voilà, ta maman était trop jeune, elle n'avait pas d'argent, elle a dû te confier à regret, parce qu'il y a aussi les terminologies, les mots. Oui. L'abandon, ce n'est pas confier, ce n'est pas abandonner. Est-ce que c'est important aussi pour les parents adoptifs de faire attention à ce genre de choses ?
C'est très important. Et parfois, les parents adoptifs veulent tout bien faire, veulent faire au mieux. Alors, on ne peut pas leur reprocher, évidemment. Non. Mais parfois, c'est aussi beaucoup pour l'enfant. Et puis, ça, psychiquement, le temps psychique, hein, vous connaissez mon dada avec le temps psychique qui ne ressemble à aucun autre et donc, qui ne coïncide pas toujours entre les individus. Le temps psychique des parents n'est pas celui de l'enfant. Et les questions ou les non-questions, parce qu'il y a des enfants qui ne se posent pas de questions à certains moments, en tout cas pas consciemment, si les parents viennent... y répondre comme ça parce que eux, qu'est-ce que ça signifie pour eux en fait d'avoir ces interrogations-là et de vouloir tout expliquer absolument. Vous savez, c'est ces familles où, par exemple, le Guatemala, on vit tous au rythme du Guatemala dans la famille parce que les enfants viennent de ce pays-là. Mais bon, la greffe, elle se fait autrement aussi.
Merci à Olivia Farkas, merci à Ellie et merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager.